A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Il parle le Verlaine aussi bien que l'Ibn Arabi. Double logiciel, le monsieur. Double formation aussi, philosophique et scientifique. Ghaleb Benchir est peut-être tombé dans la marmite d'une ou deux potions magiques, va savoir. Plus sérieusement, je suis toujours très curieuse d'assister aux interventions médiatiques de cet islamologue très sollicité depuis la montée en France de tous les ismes, islamisme, fondamentalisme, extrémisme, terrorisme. Mais comme le monsieur est un véritable bretteur, question sémantique, c'est un régal de l'entendre ramener la couverture du côté de l'humanisme d'expression arabe. Fils du Shir Abbas Benchir, ancien recteur de la Grande Mosquée de Paris, auteur de nombreux ouvrages, dont Petit manuel pour un islam à la mesure des hommes qui est sur ma table, Ghaleb Benchir est parti pour quelques nuits blanches, puisqu'il vient d'être nommé président de la Fondation de l'Islam de France avec la volonté, je cite, de combattre l'hydre islamiste. Bonjour et salam alaikum, Ghaleb Benchir.
Bonjour, bonjour chère Yasmine.
Et malhaba.
Shukran.
Donc vous succédez à Jean-Pierre Chevènement et d'ailleurs on a pu s'étonner que ce ne soit pas vraiment une personnalité musulmane qui pose la première pierre de cette fondation. Est-ce que pour vous Chevènement c'était quand même un bon casting ?
Ce ne fut pas un mauvais casting, vous pardonnerez la litote. Même si ça ne nous est pas agréable de le dire, je ne suis pas sûr que si c'était un musulman au départ, nous n'aurions pas eu quelques petites frictions.
Diantre.
Oui, hélas. Parce que nous avons un précédent d'une fondation à peu près du même ordre et qui est restée plus d'une décennie sans rien faire. Et elle a été même dissoute par le Conseil d'État pour carence d'activité.
Ouf.
C'est comme ça. Ce que nous reconnaissons aussi à Jean-Pierre Chevènement, c'est d'avoir mis sur orbite cette fondation. Il a privilégié le faire sur le faire savoir. Sa gestion financière est saine. Eh bien, nous devons consolider l'acquis, le capitaliser, le fructifier.
Alors avant de cheminer dans vos multiples vies et multiples géographies, Ghaleb Benchir, un petit détour par votre actu avec ce petit manuel pour un islam à la mesure des hommes qu'on peut éventuellement introduire par une intervention de l'intellectuel Alain Finkielkraut. Ce que j'ai choisi comme extrait se passe au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et au moment où la France vient de voter deux lois, une contre le port du voile à l'école et une autre contre le port de la burqa dans les espaces publics, deux lois jugées islamophobes par certains. Alain Finkielkraut réagissait à l'époque de cette manière.
La haine des musulmans doit être combattue et poursuivie. Mais phobie, comme le remarquait Olivier Rollin dans un magnifique article du Monde, en grec, ça ne veut pas dire haine,
ça veut dire peur.
La peur de l'islam et la peur d'un certain islam, c'est, dans la situation actuelle, la moindre des choses. Et pour en revenir à ces lois, elles ne sont pas islamophobes, elles disent à l'islam de s'adapter aux lois de la République, comme l'a fait l'Église catholique, et elles refusent que ce soit à la République de s'adapter aux exigences de l'islam. C'est la moindre des choses, c'est la seule chance, si vous voulez, de réussir une certaine harmonie sociale.
Elle comme lampe d'Aladin.
Ah oui, ça, quand on frotte la lampe d'Aladin, il y a de drôles de génies qui peuvent en sortir aujourd'hui. Une réaction, donc, Ghaleb Benchir au propos d'Alain Finkielkraut lorsqu'il dit qu'islamophobie veut dire peur de l'islam. Je sais bien votre suspicion par rapport au mot en isme. Ma question est simple et c'est toujours la même. Est-ce qu'il y a un lien entre islam et islamisme ?
Il y a peut-être trois niveaux de réponse. Il y a la réaction sur ce que vient de dire Alain Finkielkraut. Une explication à propos de ce mot islamophobie et est-ce qu'il y a un lien entre islam et islamisme. Je fais partie de ceux, et je l'assume totalement, qui disent On ne peut pas se dédouaner uniquement par des paroles de type « halt à l'amalgame ». Le mot « amalgame » est un mot arabe, je le dis en passant. « Halt à l'amalgame », ceci n'a rien à voir avec l'islam. L'islam est une religion de paix. Et on s'obstine à ne pas voir qu'est-ce qui a pu produire, générer toutes ces dérives meurtrières, cet islamisme et au-delà l'extrémisme violent et le djihadisme et toute l'entreprise guerrière derrière. Donc il y a un énorme travail, c'est une responsabilité et puis ça relève de l'éthique des hommes et des femmes de foi et qui appartiennent à l'ère AIRE islamique. Le deuxième point, hélas, c'est vrai que l'étymologie du mot islamophobie renvoie à la peur, une peur irraisonnée, pathologique, maladive même, de quelque chose en l'espèce de l'islam. Donc l'islamophobe serait comme l'arachnophobe, l'agoraphobe, le claustrophobe, l'hydrophobe, que sais-je encore. En l'espèce, nous aurions un peu partout de par le monde, et notamment dans le monde occidental, ceux qui auraient peur de l'islam. S'il ne devait être informé sur la tradition religieuse islamique qu'à travers le prisme de la terreur, de l'épouvante et des attentats, il y aurait de quoi avoir peur et nous pourrions souscrire à cette crainte. Et même, j'irais que nous pâtissons à leur état d'être malades et nous ferons tout pour qu'ils soient soignés et qu'ils guérissent. Maintenant, Alain Finkielkraut devrait se mêler de ce qui le regarde davantage comme académicien et l'auteur de La défaite de la pensée a fait preuve d'une abdication de la raison quand il parlait de l'islam alors que je n'ai jamais vu M. Islam marcher ou boire. Il s'agit d'une civilisation impériale sous-tendue par une tradition religieuse qui a ses bons côtés et maintenant malheureusement ses mauvais côtés. Ça devient une affaire de théologiens, de philosophes, de penseurs d'abord, mais aussi d'hommes et de femmes, des fidèles de sa tradition, de prendre à bras le corps cette guérison, cette entreprise de sortir de l'ornière.
Donc ça, c'est votre affaire à vous de théologien, Ghaleb Benchir, puisque vous êtes aussi théologien. Et avec ce petit manuel, vous nous donnez une immense leçon de sémantique sur certains mots et sur la perte de sens, d'ailleurs, au fil du temps, de mots comme djihad, salafisme ou califat. Et puis, je dirais que vous secouez aussi dans un second temps le cocotier, ou peut-être le palmier, je ne sais pas comment il faut dire, des musulmans eux-mêmes, des dignitaires que vous trouvez trop mous, des communautés musulmanes que vous qualifiez d'ignares, qui vivent très souvent leur foi entre deux piliers, ça c'est moi qui dis ça comme ça, mais entre la raison religieuse dévote d'un côté et la pensée magique superstitieuse de l'autre. Quel antidote vous proposez pour lutter contre tout ça?
Alors, j'allais dire, d'abord, je me place sur un plan testimonial, donc c'est le témoin qui parle. Et en plus, je pense qu'il est de notre responsabilité de ne pas nous taire en dénonçant par ailleurs ce dont nous pourrions être complices par le silence. Oui, c'est vrai qu'il y a une raison religieuse dévote, une pensée magique, une représentation superstitieuse, une axiomatique d'un discours prophétique totalement éculé. Et nous nous sommes enfermés, le « nous », je le réserve à nous autres musulmans, dans des enfermements doctrinaux, dans des clôtures dogmatiques pour parler comme Mohamed Harkoun. Et il est temps d'en sortir, de libérer l'esprit de sa prison, de dégeler les glaciations idéologiques et de prendre à bras le corps les questions fondamentales que sont la liberté de conscience, l'égalité, l'égalité fondamentale et ontologique entre les êtres et aussi juridique, par-delà l'appartenance confessionnelle, par-delà le genre, les questions de désacralisation de la violence, les questions de l'autonomie de l'acquisition du savoir. Nous ne pourrions pas indéfiniment dire que nous avons tout dans le Coran et donc ce qui produit une paresse intellectuelle et une sorte de démission de l'esprit. Donc vous voyez bien que les chantiers sont titanesques, donc il y a lieu à la fois d'y réfléchir. Il ne s'agit pas uniquement de réfléchir, mais aussi d'agir. L'analyse nécessaire tente de ramener la crise actuelle de l'islamisme à ses véritables dimensions et comprendre son évolution. au moins sur un siècle, tout en soulignant ses facteurs endogènes et ses raisons extrinsèques. Pour liquider rapidement ces dernières, il nous suffit de les serrer sous forme de spot pour que nous n'ayons pas à nous y appesantir. Laurence d'Arabie, Sykes-Picot, Allenby, Balfour, traité de Sèvres, traité de Lausanne, traité de Berlin, canal de Suez, Cana, Fallujah, Abu Ghraib, à côté de l'énumération des résolutions de l'ONU qui dorment dans les tiroirs de l'organisation interétatique ou qui sont appliquées partiellement, tandis que d'autres bien ultérieures ont été appliquées dans un déluge de feu et de fer, et même en dehors de toute légalité internationale et suite à un mensonge éhonté, le déluge de feu et de fer s'est abattu sur le peuple irakien, le plongeant dans le chaos et la désolation totale.
Merci Ghaleb Benchir pour cet extrait sur RFI de votre petit manuel pour un islam à la mesure des hommes. Donc, d'après ce que je comprends, il faut réviser largement son histoire et ses accords Sykes et Picot, notamment sur le découpage du Proche-Orient en 1916, par les puissances occidentales. Mais rapidement, j'ai juste relevé ce point presque exotique pour l'œil occidental. Quel est le lien entre Laurence d'Arabie et l'islamisme contemporain ?
Il n'y a pas un lien direct, comme ça, tout de suite et immédiat de cause à effet. Il y a l'intervention, le jeu aussi, l'arrogance de cet Occident qui est venu sur des terres prétendant les civiliser et qui a découpé à loisir des territoires, fomentant des troubles, contractant des alliances au mépris des valeurs héritées de l'Aufklärung, des Lumières. Donc, nous autres occidentaux n'avons pas été globalement fidèles aux idéaux des Lumières.
Donc aujourd'hui, vous, islamologue et président de la Fondation de l'Islam de France, et en vous référant à ce cher professeur franco-algérien Mohamed Harkoum que vous citiez tout à l'heure, vous pensez urgent que la pensée islamique se penche sur la relation triangulaire entre démocratie, religion et droits de l'homme. Sauf que la majorité des pouvoirs politiques en terre islamique est quand même souvent très fâchée avec la démocratie.
Mais chère Yasmine, j'enlèverai le quand même dans votre question. Hélas, mille fois hélas, la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, des régimes en contexte islamique est fâchée avec la démocratie. Je ne suis pas venu à votre micro plaider la cause de l'islam ou des musulmans. Je suis même très sévère. Mais je ne vois pas où est le lien direct entre la spiritualité islamique et la manière de gouverner la cité selon ces régimes-là. Parce que je vois la gamme qui nous est offerte, elle décrit un spectre qui va depuis la monarchie de droit divin jusqu'au marxisme-léninisme, certes dépourvu de sa dialectique matérialiste et athée, tout de même il faut que ça soit conforme à un contexte religieux, et les deux se revendiquent et se réfèrent à la religion islamique. Et donc nous avons là soit une doctrine religieuse islamique souple, malléable, qui englobe les contraires, et de ce point de vue-là, il se pourrait qu'elle se fût une qualité, ou, tout simplement, il y a manipulation, domestication, instrumentation éhontée de la donne religieuse pour des régimes qui sont en mal de légitimité, voire qui n'en ont pas du tout, afin de se maintenir au pouvoir. Personne au monde n'a dit que la dictature argentine, qui avait un lien direct aussi avec l'Église locale, le drame était dans le christianisme. Personne n'a dit sous Franco que le lien était avec l'Église catholique, etc. Pareil, il y a des problèmes de pensée théologique, de critique de la norme juridique en contexte islamique, ça c'est clair. Mais il y a aussi des hommes qui disent qu'eux, ils avaient pénétré le désir politique de Dieu, qu'ils ont scruté sa volonté et qu'ils sont les mieux à même à nous l'imposer. Ça se passe malheureusement comme ça dans ces régimes que vous avez évoqués.
Alors, il y a une autre difficulté pour vous, c'est quand même la réponse des hommes politiques, ici en France, Ghaleb Benchir. Un petit exemple, puisque vous aimez les exemples aussi, on se souvient de la polémique il y a 3 ans sur la non-mixité de certains bars de Sevran, où un habitant disait « ici t'es dans le 9-3, t'es pas à Paris, ici c'est une mentalité différente, c'est comme au bled ». Et on se souvient aussi de la réponse de Benoît Hamon, homme politique de gauche, qui disait bah, « historiquement, dans les cafés ouvriers, il n'y avait pas de femmes ». Donc ma question, c'est de savoir, est-ce que nos hommes politiques français sont aujourd'hui à la hauteur de la mission ?
Je distingue deux cas en ce qui concerne la classe politique française. Et je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui, pour être au service de leurs concitoyens, et pour gérer les affaires dans la cité, sont prêts à se coltiner, si je puis dire, tout un travail ingrat. Je ne parle pas de cela. Il y a d'autres qui, pour jouir des dorures des palais de la République, sont prêts à dire n'importe quoi, voire pour certains d'entre eux, à caresser les bas instincts de l'homme et à attiser le feu. Et ce qui est curieux, ils le font tout en sollicitant nos propres suffrages. Je regrette, sans vouloir être donneur de leçons, que nos dirigeants n'ont pas été clairvoyants, c'est un doux euphémisme, depuis au moins 2 à 3 décennies, à propos d'une relégation d'une population dans des quartiers dont on dit maintenant qu'ils sont perdus pour la République, ou les quartiers difficiles. D'abord, je ne vois pas pourquoi on parlerait du bled. Il ne doit y avoir qu'un bled qui est le leur, ici. Et l'amour de la patrie est une marque de foi. Et puis, il n'y a aucune raison d'assimiler l'habitant du 9-3, et pour certains le musulman, parce que là on commence à ethniciser en confessionnalisant, aux ouvriers. Donc ça devient une affaire sociale, dans une lecture sociologisante des faits, et il n'y a aucune raison de les ramener à la complexité de la question islamique en France.
Donc il y a du boulot, si j'ose dire, à la Benchir. Vous êtes prêt à aller sur le terrain et à aller discuter justement avec ces jeunes en mal identitaire, en déshérence par rapport à cette République ?
Je l'ai fait avant, je le ferai davantage. J'ai même appris, et ça me coûte, parce que le nivellement serait par le bas, mais il faut aussi, en même temps, sans être macronien, faire passer des messages. Et donc j'ai appris à dire « keuf »,« rhum », »,« feuge », »,« rebeu », etc., pour que cette jeunesse, en déshérence culturelle et en indigence intellectuelle, puisse recevoir un message. Quand on n'a que 300 mots pour pouvoir s'exprimer, on est potentiellement violent. Donc il faut subsumer cette violence par un dialogue. Et le dialogue ne peut s'établir qu'avec un langage. Et ce langage-là, il faut le maîtriser, petit à petit, enrichir leur vocabulaire. Ces jeunes gens et ces jeunes demoiselles sont à la fois proie facile au discours simpliste, en l'occurrence au discours fondamentaliste, et puis leur frustration dégénère soit en agression, en banditisme, soit en une sorte d'embrigadement dans une autre logique meurtrière.
Vous êtes de la balle comme islamologue, si je peux me permettre.
L'islamologue, étymologiquement, est celui qui essaye de tenir un discours rationnel sur le fait, en l'occurrence islamique.
Oui. Alors en tout cas, dans votre vie de croyant, on va zoomer un peu plus intimement sur vous, Ghaleb Benchir. Il n'y a pas eu que le chant du Mouezzin, il y a eu aussi du Pink Floyd, parce que apparemment vous avez eu une vie psychédélique, une première vie psychédélique vous-même, c'est vrai ?
Oui, il se trouve que je révisais pour préparer mes examens en sciences. Et c'était une époque où nous autres étudiants et étudiantes étions pris dans ce mouvement psychédélique, oui. Et je suis amoureux des Pink Floyd.
Avec tout ce qui allait avec ?
Les frasques de la jeunesse sont prescrites, ce qui aurait pu aller avec, oui.
Mother, should I run for president? Thank you.
à l'écoute de la radiodiffusion télévision algérienne.
La nation est en deuil. Le président de la République, président du Conseil de la Révolution, Houari Boumediene, s'est éteint ce matin à 3h55 à l'hôpital Mustapha, où il était en traitement depuis le 18 novembre 1978. Son état de santé s'est brusquement aggravé au cours de la nuit dernière.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Mama's gonna keep baby cozy and warm
J'ai comme je me souviens
Alger, avec son port, ses mouettes et puis son président du Conseil de la Révolution, Houari Boumediene, qui disparaît en 1978. Ça, c'est un fait marquant dans votre vie à vous, Raleb Benchir.
Oui, j'y étais à ce moment-là et la vie s'est arrêtée. C'était la blancheur de la ville qui y était, même en plein mois de décembre. Soudain est devenu grisâtre. Le choc était immense auprès de la population.
Et pour vous, adolescent ?
J'avais l'impression de vivre un temps extraordinaire au sens étymologique, pas comme tous les jours. La vie était saturée, si j'ose dire, de versets coraniques psalmodiés. Et maintenant, avec le recul, je réalise qu'il y avait peut-être une expression attristée, affectée, plus qu'il en fallait, comme savent le faire aussi certains régimes.
C'était un dictateur pour vous, Boumediene ?
Non, je dirais qu'il était un homme d'État, dans les contextes de l'époque.
Étrange, parce que quand même, il cumulait les fonctions de président, de premier ministre, de ministre de la Défense et de président du FLN.
Voire de colonel de l'armée, on peut même en rajouter. Ce que j'essaye de faire passer par moments, c'est l'idée de ne pas verser dans le parachronisme. Le parachronisme n'est pas l'anachronisme. L'anachronisme est clair, il saute aux yeux. Si je devais vous dire que Napoléon a roulé en Mercedes classe S, les auditeurs nous riraient au nez, surtout au mien. En revanche, dire que l'Algérie des années 60 et 70 devait être à la pointe de la démocratie au lendemain d'un coup d'État, qui lui-même n'était effectivement pas démocratique, il y a peut-être quelques nuances. Mais si vous voulez une réponse directe à une question directe, eh oui, mais il n'était pas de ce point de vue-là dans la démocratie que nous connaissons en Scandinavie.
Je vous adore. J'adore votre rhétorique, Raleb Benchir. Je ne peux pas le cacher de façon très en sol majeur.
Vous qui êtes adorable.
Vous êtes né en 1960, donc à Jeddah, en Arabie Saoudite, puisque je crois que votre père était en poste là-bas. Votre père est une figure incontournable pour les musulmans de France ou les musulmans en France. Je ne sais pas comment il faut dire.
Ou les musulmans dans France, mais bon, je préfère, s'il faut vraiment une épithète, parler d'un islam gallican. Le clin d'œil fait à l'histoire et au gallicanisme. Mais en tout cas, il s'agit ou de citoyens français de confession islamique ou de résidents qui résident dans notre pays et qui se trouvent être aussi de confession islamique.
Bon, pour dire que vous êtes donc le fils de Sheikh Abbas Benchir El Hossein, qui a été entre autres recteur de la Grande Mosquée de Paris de 82 à 89, mais vous qui avez vécu votre adolescence en Algérie avant d'arriver en France, est-ce que on peut dire que vous grandissez dans une double demeure, c'est-à-dire à la fois entre la culture islamique d'un côté et la culture occidentale de l'autre?
Alors pardonnez-moi de revenir sur le mot double et je lui préfère hybride.
On le garde pour tout à l'heure, moi, si ça ne vous dérange pas.
Ça ne me dérange pas. Merci. Du tout et je souscris à tout ce que vous souhaitez. Alors, disons une approche duale, double. D'un côté, le patrimoine islamique, avec toutes ses subtilités, toutes les différentes écoles de théologie, ce fameux humanisme d'expression arabe en contexte islamique, totalement oblitéré, effacé des mémoires, occulté, insoupçonné même pour certains, et qui a prévalu. Des polygraphes, des prosateurs, des poètes, des hommes de cour, des califes, des commensaux de ces rois et de ces monarques. Et donc tout ce patrimoine, pas nécessairement religieux, il y a tout l'aspect artistique, littéraire, culturel, et tout cela s'est marié aussi avec ce qu'on peut appeler une culture occidentale, qui en réalité se trouve être plutôt européenne ou européo-nord-américaine. Et ce mariage, je l'espère heureux, ça forge une vision du monde et une psyché.
Vous diriez que c'est à ce père et à son influence que vous devez votre casquette d'islamologue ?
Assurément, il y a une part de déterminisme. Voir son père avec la stature écrasante improviser quand il montait en chaire des prônes longs et des sermons passionnés, fougueux, et il était très volubile et très éloquent, et puis son approche de théologien. Et de fait, ça m'a beaucoup marqué, ça a ajouté à mon approche d'apprenti scientifique et de ma vision du monde ces éléments de théologie. Oui.
Rentrer à la maison, c'est où ?
Rentrer à la maison, je suis Val-de-Marnais.
Dans le sud de Paris, sud de Paris ?
Dans la ville de Thiers.
C'est là-bas la maison ?
C'est là-bas la maison. Pendant les vacances, c'est en Bretagne, puisque je suis costard-mauricain d'adoption.
La question en sol majeur allait de soi, parce que, comme je l'ai dit, vous avez eu plusieurs terres, donc plusieurs ancrages possibles dans votre vie. Vous avez eu une phase panarabique, comme vous dites. Qu'est-ce qu'elle représente, cette phase-là ?
La tendre enfance. Je suis arabe, pas uniquement de langue, mais dit-on de souche ou d'ethnie. C'est une chance peut-être, en tout cas moi, la faiblesse de croire que je ne pâtis pas d'une faille identitaire sur ce plan. Je reconnais la noblesse de l'arabité, de la bédouinité arabe, de la civilisation d'expression arabe. Elle ne fut pas exclusivement arabe.
Et cette noblesse passe par la connaissance de cette identité arabe.
Oui, et de son ancrage dans l'histoire. Avec ces zones d'ombre, et les Arabes étaient aussi versés dans les razzias, dans une forme de violence, mais ils étaient aussi magnanimes, longanimes, funambules de la langue, généreux, d'une grande hospitalité, un sens de l'honneur aigu, une connaissance de la myriade étoilée au-dessus de leur tête et donc de l'astronomie.
Alors, vous avez eu aussi une phase algérienne qu'on évoquait rapidement. Cette Algérie, comment on va la qualifier, ce pays de Rajal moustachu et susceptible, et je le dis avec une grande tendresse pour tous nos grands-pères moustachus. De quelle manière cette Algérie vous a construit ?
Selon une anecdote, on dit qu'au moment du pèlerinage, autour de la Kaaba, ce temple cubique, ou cette demeure plutôt cubique vêtue de noir que nous voyons dans les images, un Algérien, un pèlerin, rencontre un autre, je ne sais plus de quelle nationalité, et puis ils font connaissance, et son interlocuteur lui dit « Tu es d'où, cher frère ou frère pèlerin ?» Et l'Algérien lui rétorque « Je suis d'Algérie ». Et l'autre lui fait savoir qu'il est admiratif du peuple algérien, qui a toutes les qualités sauf une. L'Algérien l'attrape par son habit, son ihram, en plein pèlerinage. Il lui dit « Alors c'est quoi ? Laquelle ?» Il lui dit « C'est celle-là. » Donc c'est la nervosité, la violence, l'impulsion, etc. Quelque part, j'ai connu cela. Avec le temps, j'ai essayé de subsumer et d'en prendre une distance.
Vous avez subsumé
cette dite impulsion au fur et à mesure que je m'approche de l'estuaire du fleuve, de l'existence de ma vie, bah, je m'assagis.
Et puis il y a eu donc la phase française chez vous, Raled Benchir. Votre arrivée date de 1983 dans le petit village gaulois qui n'avait rien, j'imagine, d'une bande dessinée à l'époque. Votre but à ce moment-là, c'est de finaliser vos études scientifiques, philosophiques, théologiques. On vous imagine bien le nez dans les bouquins, mais il y a en même temps le fameux réel. Est-ce que j'ai envie de vous poser la petite question qui pèse peanuts, finalement, en face de vous. Est-ce que votre but aussi, c'était celui de l'intégration dans ce pays ?
Je n'ai pas parlé du tout, ni pensé intégration. C'est vrai que mon père était recteur de la Grande Mosquée de Paris, donc il avait un statut particulier auprès d'abord de la composante islamique de la nation. Le corps diplomatique arabo-islamique venait le voir et le consulter, et l'institution, voire le lieu physiquement, était aussi un lieu qui rayonnait et qui était un espace d'effervescence intellectuelle, culturelle, diplomatique, voire politique, puisque les dirigeants d'alors venaient aussi le consulter sur beaucoup de choses, et même un moment et un temps de dialogue interreligieux au sommet. Le cardinal Prima de Gaulle de Courtrai venait le voir, le grand rabbin René Samuel Sirat venait le voir, Monseigneur Lustiger venait le voir, comme il allait leur rendre visite. Ça allait de soi, faire des études, enseigner, dédoubler la formation scientifique par une approche philosophique, parce que je m'étais dit que je ne vais pas passer ma vie à décrypter le monde en résolvant des équations mathématiques, et j'ai essayé de comprendre l'aspect métaphysique des sciences, l'aspect philosophique de la description du monde et de la nature. Quelqu'un comme Ernest Mach, le physicien Mach, était titulaire de la chaire de la philosophie des sciences, de la nature, en 1915 à Vienne, à l'université de Vienne. Donc tout cela me parlait et j'ai voulu dédoubler effectivement ma formation en sciences, en philosophie.
Vous êtes une exception qui confirme la règle. Vous incarnez une forme de dualité, pour reprendre votre terme, où finalement ce mariage qu'on dit improbable entre deux univers, celui du monde islamique et celui de la pensée occidentale, s'incarne en vous dans des profondeurs amoureusement poétiques, on pourrait dire ça comme ça.
Oui, un mot peut-être sur ce mariage. Je regrette pour ma part, indépendamment encore une fois de ma personne, que la séquence moment Descartes, moment Freud n'a pas été assimilée, intégrée cette fois-ci, ingérée, connue, étudiée, critiquée et dépassée en contexte islamique de nos jours. Et si on avait les deux, l'apport d'un Mullah Sadra Shirazi, pour parler de l'école d'Ispahan, plus l'apport de toute cette séquence et ce qu'il y a entre les deux, eh bien, nous ne serions pas dans l'ornière dans laquelle nous pataugeons en ce moment.
Alors, il y a une chose qui frappe quand on vous écoute, c'est donc votre amour de la langue et des langues, Raled Benchir, et je sais que vous êtes le roi du par cœur. Donc, vous allez nous offrir un poème ou deux, peut-être, en français et en arabe, je ne sais pas, on va voir ça. Après le miel versé sur nos platines par un certain Abdel Halim Hafez.
Ah oui.
واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع فاكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك ساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني أهواك واتمنى لو أنساك و وانسى روحي وياك وانضع تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معك والادمعي فكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرمان.
Heureusement que vous êtes fidèle au poste, vous avez droit au Sinatra du Nil sur RFI, surnom donné à Abdel Halim Hafez, beau comme un cœur, dans l'ensole majeur d'un islamologue qui taquine, je le sais, autant le vers baudelairien que la mystique arabe. Ghaleb Benchir, votre serviteur.
يرنو بطرف فاتر مهما رنا فهو المنى لأنتهي عن حبه يهفو بغصن ناضر حلو الجنى يشفي الضلال صبر لي عن قربه لو كان يوم زائري زل العنا يحلو لنا بالحب أن نسمى به. C'est un très beau poème d'un Andalou.
Vous le traduisez pas?
Il parle de son amour. Alors étonnamment, quand il s'agit d'un amoureux d'une femme, il la masculinise en quelque sorte, puisqu'il s'agit plutôt de l'amour. Alors il dit, je le vois, je la vois en réalité, mais je vois mon amour en train de faire un geste avec un rameau qui est bien verdoyant. Je l'aperçois et elle me manque. En revanche, j'ai encore un autre poème, cette fois-ci d'une portée mystique, spirituelle, voire théologique, de Rabia. Rabia est morte en 801-802, donc elle a vécu tout au long du 8e siècle et est morte au tournant du 9e. Elle était une joueuse de flûte, elle aurait même connu des nuits orgiaques. Et après, elle s'est détournée, comme on dit, de l'amour des hommes vers l'amour de Dieu. Mmh. Et un jour, on l'avait rencontrée avec un seau d'eau dans une main et une torche dans l'autre. Et on lui a dit, mais oh Rabia, que fais-tu par là? Elle a dit, bah, je vais éteindre le feu de l'enfer et incendier le paradis. Comme ça, les hommes, quand ils adorent Dieu, ils ne l'adorent, ils ne le prient que pour lui-même. Et elle s'est mise à déclamer le fameux poème des deux amours. Je cite, « Je t'aime de deux amours, un amour vraiment digne de toi et un amour visant mon propre bonheur. Quant à l'amour de la passion, c'est que je ne m'occupe à ne penser qu'à toi. Et quant à l'amour vraiment digne de toi, c'est que tes voiles tombent et que je te vois. Ni en l'un ni en l'autre, nulle gloire pour moi, mais louange à toi et pour celui-ci et pour celui-là. »
Alors ça va être le moment de la petite question qu'on aime tous les deux, Ghaleb Benchir. Est-ce qu'on peut parler à votre sujet de double culture ou d'hybridité?
Je préfère pour ma part une question d'hybridation parce que, de mon point de vue, mais je peux me tromper, la double culture peut induire une idée de quelque chose qui n'est pas miscible. Vous avez une chose plus une autre qui s'adjoignent, mais ça reste séparé. En revanche, quand c'est hybride, ça se mélange, ça fusionne et ça coule dans un même creuset.
Ça devient une entité.
Et ça devient une entité composite. C'est même presque une sorte de sédimentation comme ça. Et je pense que c'est aussi le cas de l'identité de la France. Je ne parle jamais d'identité nationale, mais l'identité française repose sur un socle qui est une roche-mère chrétienne, et puis il y a eu des apports. L'apport juif, la famille d'Ibn Tiboun, par exemple, en Provence, Moshe Narbouni, Nissim de Marseille, pour ne citer que cela. Et puis l'apport islamique profond dans l'histoire, les gens le méconnaissent. Mm-hmm. Raymond de Toulouse avait des commensaux, pluriel d'un commensal, musulmans, etc. Et surtout récemment. Et c'est ainsi parce que ça évolue, les nations sont dynamiques, sont vivantes. L'important, c'est comment asseoir les fondations d'une société humaine, fraternelle, solidaire et pourquoi pas prospère pour tous.
Puisque vous parlez, vous me tendez la perche, vous parlez d'identité nationale une seconde, on sait bien les non-dits de cette histoire entre vos deux pays, j'ose le dire comme ça, Raleb Benchir, la France, qui a fait de l'Algérie une de ses terres à partir de 1830, puis un de ses départements jusqu'en 1962. Je ne sais pas si cette identité franco-algérienne a suscité un débat, un monologue intérieur en vous, mais aujourd'hui, à quel récit national vous vous rattachez ?
Je ne méconnais pas le fait que je suis le produit d'une histoire qui a fait en sorte que, en Algérie, nous avions Paris comme capitale, et qu'en France,
c'est une phrase, ça, hein,
nous avions pour un moment Alger comme capitale, et c'était même dans les moments les plus douloureux. C'est vrai que c'était pas la même période et pas le même temps. Et ne serait-ce que cette notion de capitale entremêlée fait en sorte que les peuples algériens et français ont connu une destinée tragique et maintenant il faut savoir la dépassionner. J'ai toujours aussi pensé que la France était duale, mais il y a celle qui vient du fond des âges, pour parler comme de Gaulle, éternelle, celle qui est attachée aux droits de l'homme, généreuse, et il y a celle aussi qui se drape derrière le masque hideux du colonialisme, qui est une abomination, et du racisme. La France Dreyfusarde et la France anti-Dreyfusarde, la France de la résistance et la France de la collaboration, la France humaniste et la France de la torture en Algérie, la France cléricale et la France anticléricale, la France d'en haut et la France d'en bas, si on peut encore poursuivre comme ça.
Et vous pourriez faire l'inventaire côté algérien également, mais ça ne répond pas à ma question. À quel récit national, finalement, vous vous rattachez, vous ?
Aux deux, naturellement. Ma vie d'homme se fait sur le territoire français, je suis citoyen français, mais je n'oublie pas mes racines.
Bon, vous êtes partant pour un petit j'aime pas façon en sol majeur ?
Je suis partant. Avec vous, chère Yasmine, je suis toujours partant.
Chocan.
Sur nous, mon père, jamais. Il a levé le pied, le coude, la tête. La main, jamais. Toujours le respect à la main, tu sais pas. Mais c'est vrai, il était dur. Je me rappelle un jour, il y avait une réunion parents-professeurs, et le professeur, il a dit à mon père, « Écoutez, monsieur Debouze, manifestement, votre fils a des problèmes d'acquisition des connaissances théoriques. Mon fils, il a fait ça ! Qui m'a fait suffire d'imiter sur le papé, hein ?» C'était pas méchant. On dit bien qu'il aime bien, châtie bien. Et bon, mon père, il m'adorait, c'est tout. Il m'adorait le matin, il m'adorait le soir. Des fois, à midi, j'avais rien fait. Et il m'adorait. Mais je ne fais pas lui en vouloir. Jamais je lui en voudrais, t'es fou. Mon père, faut le comprendre, il a travaillé toute sa vie super dur pour être pauvre.
J'y comme j'aime, j'aime pas.
Jamel Debbouze.
J'ai beaucoup de tendresse pour l'homme, y compris pour son art. Alors quand on commence comme ça, il faut s'attendre peut-être à un mais, et on peut ne pas en trouver, mais il y a un mais. C'est que je ne suis pas sûr qu'il faille toujours focaliser uniquement sur les tares, les défauts, les travers, même si c'était pour en rire, d'une catégorie de nos concitoyens, qui se trouvent en l'occurrence la plupart d'entre eux musulmans, sur une situation où l'on était zonardisé, banlieusardisé, déscolarisé, voire dans certains cas déshumanisé.
Mais l'autodérision, c'est un bon remède et on a
je le crois.
On a du retard, j'ose le on.
Je le crois. Dans une de mes déclarations récentes, c'est de dire que l'autodérision, l'autocritique sont des voies indiquées pour, encore une fois, sortir de l'ornière.
Charlie Hebdo.
Le sort qui est arrivé à la rédaction de Charlie Hebdo est tout à fait condamnable, inacceptable, moralement, humainement. Je suis de ceux qui sont attachés à la liberté tout court, liberté d'expression, liberté de conscience.
Sans limite ?
sans limite. Je ne suis pas de ceux qui la conditionnent avec « oui, mais il n'y a pas de limite ». Je dirais une parole qui peut blesser autrui, froisser une âme humaine, ça relève plus de l'éthique et du bon comportement, du bel agir. Le reste, si on commence à vouloir censurer, interdire, alors il y a le cadre de la loi, les fameuses lois Guesso, etc. Et il faudrait peut-être revoir ça. Mais les questions de blasphème, les questions de ne pas oser critiquer ou telle doctrine, et a fortiori une religion, pour moi, ça relève d'une fragilité d'esprit et d'une psychologie très sommaire.
Le cinéma, c'est avec trois petits points. Je vous propose celui de Youssef Chahine.
Très bien.
Par exemple, lorsqu'il croquait le destin du grand penseur musulman andalou du XIIe siècle, un certain Averroès. Une larme simplement en sol majeur du film Le Destin, ça c'est juste pour le goût, le gusto comme on dit, Alep Benchir. Et je me dis que c'est un petit peu l'enfer sur Terre de vous demander de résumer l'importance d'Averroès. J'ai cru comprendre deux, trois petites choses, peut-être de travers d'ailleurs, vous allez me corriger.
Jamais.
J'ai cru comprendre, toujours, j'espère. Il a commenté et traduit l'œuvre d'Aristote, soutenu l'idée d'égalité des sexes et était discrédité à la fin de sa vie par le monde musulman lui-même, car peut-être trop philosophe, je ne sais pas. Il faut que le monde musulman contemporain redécouvre Averroès.
En le réactualisant, bien entendu, mais il faut qu'il le redécouvre, il y a quelques velléités comme ça, qu'on redécouvre la philosophie, qu'il ait l'éveil pour la philosophie, pour la réflexion, pour le questionnement, et oser penser par soi-même et questionner tout, y compris les données de la foi. Une foi n'est vivante que si elle est intelligible. La théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps.
En sol majeur, @rfi.fr.
À lire votre petit manuel pour un islam à la mesure des hommes qui vient de paraître chez Jean-Claude Lattès. Merci, Choukran Khaled Benchir.
Afouane.
En sol majeur avec Facebook, Twitter et puis ce qu'on préfère aujourd'hui, le podcast sur notre application Pure Radio. Tania Tsikouna, Sophie Jana, Yasmine Chouaki, on vous retrouve et on vous espère demain avec Gérald Toto. À demain.